Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est dans l'air. Ils promettent d'assiéger Paris et les grandes métropoles. Venus de toute la France, les agriculteurs sont en train de mettre leurs menaces à exécution. Avec ce soir 1500 tracteurs et 8 points de blocage aux abords de la capitale, 30 départements sont touchés, alors qu'au grand marché de Rungis, ce sont des blindés de la gendarmerie qui attendent de pied ferme les membres de la coordination rurale. Le président de la République a convoqué une réunion avec ses ministres cet après-midi. De nouvelles annonces sont attendues avec peut-être l'espoir de faire retomber la pression. Le débat ces dernières heures s'est aussi déporté sur la manière dont le ministre de l'Intérieur gère cette crise. Trop de mansuétude ou sage prudence de la part de Gérald Darmanin. En tout cas, il a fixé quelques lignes rouges et assume une réponse empreinte de modération de la part des forces de l'ordre. Enfin, preuve que le mouvement est très populaire, la présentatrice de L'Amour est dans le Pré s'est invitée cet après-midi sur un point de blocage. Agriculteurs peuvent-ils assiéger Paris? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Je cite votre édito ce matin pour France Inter, Agriculture, la stratégie européenne ne va pas. Nous en parlerons longuement grâce à vous ce soir. Emmanuel Soufi, vous êtes grand reporter au service France de l'Obs. Je rappelle votre dernier article. À Agen, les agriculteurs jouent la carte du rapport de force. Nathalie Segone est avec nous. Vous êtes journaliste politique au quotidien Le Monde, où l'on retrouve votre dernier article. Colère des agriculteurs confrontés à une semaine de tous les dangers. Gabriel Attal promet de nouvelles mesures émises sur le terrain. On verra ce qu'il a fait ce week-end. Il est allé à la rencontre des agriculteurs. Jérôme Fourquet, enfin, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre dernier livre, La France d'après, aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Emmanuel Soufi, pour faire un petit peu un point de la situation à l'heure où nous parlons. Sont-ils en train de bloquer les grands accès à la capitale, aux grandes métropoles françaises?
En tous les cas, c'est leur ambition et il semble qu'ils y parviendront en tous les cas dans les heures qui viennent. Vous avez la plupart des principaux axes, et notamment aussi le périphérique qui commence à être bien bloqué. Et c'est vrai que pour eux, c'est l'épreuve de force pour le gouvernement, mais aussi la démonstration de force pour ces paysans qui souhaitent mettre la pression sur le gouvernement à l'approche du Conseil européen de jeudi. Donc oui, et il faudra regarder demain ce qu'il va se passer au marché de Rungis, puisque la coordination rurale du Lot-et-Garonne a appelé au blocage du marché de Rungis.
Regardez la carte qu'on vient de voir passer rapidement. Quel est l'objectif? C'est-à-dire, quand ils disent assiéger Paris, est-ce qu'on y est là ou pas? Est-ce que ce sont des vrais barrages? Est-ce qu'il y a des voitures qui peuvent passer? Dans quelle situation sommes-nous?
Pour le moment, non, ça ne passe pas. Alors, sauf, je pense, tout ce qui est véhicules médicaux, tout ce qui est services d'urgence, etc. Mais non, ce ne sont pas des barrages filtrants, ce sont des barrages bloquants. Donc, l'idée étant de... un syndicaliste le disait tout à l'heure, d'affamer Paris. Même si, bon, Paris a quand même ses réserves, etc. Mais c'est vrai que l'enjeu, il est aussi économique, c'est-à-dire du côté des restaurateurs, bloquer l'approvisionnement, les livraisons des supermarchés, des centrales d'achat. Donc, c'est tout un poumon économique. Voilà, le marché de Rungis, il alimente la France, mais aussi c'est le plus gros marché européen dont on dispose.
Ce sera ouvert demain matin, Rungis.
Oui, c'est ouvert, mais avec des blindés de la gendarmerie et des tracteurs.
En considérant que c'est une ligne rouge qui a été fixée par Gérald Darmanin, qui a sécurisé l'accès à Rungis. Combien de temps ça peut tenir, Dominique Seux?
Non, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a un petit peu de pagaille, y compris du côté des agriculteurs.
C'est-à-dire
qu'il y avait des mots d'ordre entre la FNSEA, la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on regarde les images de ce qui se passe, par exemple, sur l'autoroute A10, Saint-Arnoult et au-delà, on voit bien qu'il y a un barrage sur l'autoroute, mais que les camions, y compris de livraison, des transports qui vont vers Rungis, passent quand même, mais avec des heures et des heures de retard. Donc ça n'est pas un blocage. Paris n'est pas encore affamé. D'accord. Je rassure les téléspectateurs qui sont dans cette région d'Île-de-France. Mais on voit bien que nous sommes dans, disons, 3-4 jours, j'allais dire, de tous les dangers, parce que nous avons une réunion ce soir entre le président de la FNSEA et le Premier ministre. Nous avons demain une déclaration de politique générale. C'est la première fois, à ma connaissance, je parle sous le contrôle de mes consoeurs et de Jérôme Fourquet, une déclaration de politique générale qui se passe
sous pression
d'un mouvement social important. Donc, il va parler de ça, mais aussi d'autres certaines choses, mais il va falloir qu'il annonce des choses demain là-dessus. Et puis je dis donc, comme Emmanuel vient de le dire, il y a un Conseil européen. Donc il y a 3 jours pendant lesquels il est extrêmement peu probable, carrément impossible que les choses s'arrêtent.
C'est vrai ce que disait Nathalie Segone, ce que disait à l'instant Dominique Seux, c'est difficile d'avoir de la visibilité pour les gens qui nous regardent et même pour nous, observateurs. C'est vrai que vendredi, après les annonces de Gabriel Attal, certains ont dit nous on arrête. D'autres ont dit nous on veut bloquer Paris. D'autres, nous on va bloquer Rungis, alors qu'on avait plutôt le sentiment qu'il y avait une forme d'entente sur la manière entre le ministre de l'Intérieur et certains syndicats agricoles. C'est pas facile non plus pour le gouvernement de s'y retrouver.
C'est pas facile, oui, parce qu'il est face à un front, j'ose pas dire syndical, il est face à un front d'agriculteurs divisés. On voit bien que eux en tout cas font le diagnostic que le mouvement il est parti de la base, il n'est pas parti des syndicats, et que alors en recevant la FNSEA, les jeunes agriculteurs, le gouvernement essaie d'une certaine façon de légitimer ces syndicats, mais dans ce monde agricole, comme partout ailleurs, et comme on l'avait vu avec les Gilets jaunes, il y a une crise de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une crise de la représentation. C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas et ils n'obéissent pas forcément aux mots d'ordre syndicaux. D'où d'ailleurs le fait que les barrages aujourd'hui, c'est un peu dans le désordre. On ne voit pas très bien si ça bloque pas, parce que c'est disparate, c'est pas respecté partout. Les mots d'ordre syndicaux ne sont pas unanimement respectés. On l'a vu aussi quand Gabriel Attal, vendredi, pense que c'est dans la poche en Haute-Garonne parce qu'il a convaincu Jérôme Bail. Mais ensuite, au même moment, la FNSEA appelle à la poursuite du mouvement. Donc tout ça est très compliqué à saisir pour l'exécutif en ce moment.
Et c'est vrai que depuis le début de cette crise, vous allez me dire si je me trompe, Jérôme Fourquet, mais on avait l'impression qu'il y avait, encore une fois, un dialogue organisé. Et aujourd'hui, on est à se poser la question de savoir si ça échappe déjà aux organisations. Vous disiez 3-4 jours un peu d'incertitude sur la façon dont ça peut tourner.
Alors, dialogue organisé, oui et non, parce qu'on voit bien, si le Premier ministre s'est rendu en Haute-Garonne, c'était sur l'exploitation de l'agriculture Jérôme Bail, qui a émergé, comme parfois des figures comme émergent dans les mouvements, sans qu'il soit sous dossard ou étiquette syndicale. Alors qu'on rappelle, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, mais il demeure une profession qui est encadrée, qui est très syndiquée, avec la FNSEA qui fait la majorité des voix aux chambres d'agriculture. Et en dépit de cet encadrement syndical, le mouvement est parti de la base, les syndicats étaient, si vous voulez, un peu, notamment le syndicat majoritaire, un peu à la remorque, essayer de reprendre le train en marche. De ce point de vue-là, le siège de Paris, c'est intéressant parce que c'est en Ile-de-France, c'est un des bastions de la FNSEA. C'est là où il y a les céréaliers, etc. Donc ils font des grosses corps, donc ils ont pu rameuter leurs troupes pour créer le rapport de force vis-à-vis du Premier ministre dans les négociations des trois prochains jours. Mais il y a également une partie de leur base qui n'est pas forcément complètement sur leur ligne. Et puis les deux autres organisations syndicales, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui font chacun à peu près 20% des voix et qui ne sont pas forcément sur les mêmes agendas. On rappelle en plus que l'année prochaine, il y a des élections aux chambres d'agriculture. Et donc, il y a à la fois, j'allais dire, bien évidemment, la survie du modèle agricole français, mais il y a également la partition que chacune de ces organisations joue dans cette affaire. Comme dans tout mouvement social, il y a aussi une question de concurrence entre les organisations. Donc il y a la base qui s'est un peu autonomisée et des organisations syndicales concurrentes qui vont chacune porter leurs revendications. Parce que sur la question de l'orientation à donner à l'agriculture, ces 3 grandes centrales syndicales sont sur des lignes opposées.
C'est ça, avec des revendications qui sont parfois aussi très différentes.
Voilà, et les deux minoritaires, la coordination rurale et la confédération paysanne, quelque part laissent entendre que si on est dans cette situation-là, c'est le fruit d'une co-gestion qui a duré pendant des décennies entre la FNSEA et le pouvoir, et qu'aujourd'hui, la FNSEA n'est plus légitime pour porter cette réforme. Donc il y a tous ces acteurs qui jouent chacun leur partition, plus, quand on voit les choses d'un peu loin, on peut se dire le monde agricole est homogène, mais entre des céréaliers, des viticulteurs...
On va le voir dans un instant, il y a des disparitions, des disparités
très fortes, et leurs préoccupations ne sont pas du tout les mêmes.
Pour donner un exemple très concret de ce que vient de dire Jérôme Fourquet, par exemple sur la question des normes, la Confédération paysanne dit mais oui, il faut bien des normes, il ne s'agit pas de les alléger, alors que la FNSEA s'est plutôt battue pour enlever les normes. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux, et puis il y a un enjeu sur lequel on reviendra, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est pour Arnaud Rousseau lui-même. Va-t-il être celui qui arrive à maîtriser ce mouvement et à obtenir satisfaction, ou il va faire regretter sa prédécessrice, par exemple.
En tout cas, 8 points de blocage autour de Paris, 30 départements touchés, les agriculteurs ont tenu parole et s'acheminent donc vers des points stratégiques de l'ensemble du pays, un mouvement toujours aussi populaire, soutenu par les Français et une figure de la télé. Anne Maquignon avec Léa Dermidian.
Ils ont mis leurs menaces à exécution. Sur tous les axes menant à la capitale cet après-midi, des centaines de tracteurs envahissent les autoroutes. Pour les agriculteurs, hors de question de relâcher la pression. Parmi leurs revendications, des prix plus justes et des normes moins contraignantes.
Et on est déterminés pour faire en sorte que toutes nos revendications soient entendues par le gouvernement. Et de toute façon, maintenant qu'on est sur l'autoroute, il est clair qu'on n'en sortira que quand on aura eu gain de cause.
On a commencé gentiment, ça n'a pas eu tellement d'impact, à part qu'on a remarqué quand même que le public, les gens en général, par contre, ça les a émus. Et on a senti que là, maintenant, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose.
Le mouvement est en effet soutenu par 9 Français sur 10. Sur les points de blocage, les agriculteurs commencent même à recevoir de la visite. En Seine-et-Marne, Karine Lemarchand, présentatrice de L'Amour est dans le Pré, a fait le déplacement.
On a vu toutes ces manifestations qui n'ont servi à rien, toute cette détresse qui était à nouveau rien. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience aussi des Français. Et j'espère que vous sentez que vous êtes soutenus, parce que vous l'êtes, quoi. Et effectivement, il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas des choses concrètes. Il y a des lois qui sont faites, qui ne sont pas appliquées, c'est pas normal.
Partout en France, plusieurs dizaines d'actions ont été recensées. Pourtant, vendredi, le Premier ministre avait tenté de répondre aux attentes. Simplification des normes, aide d'urgence pour les secteurs en crise et suppression de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. Ces mesures ont permis la levée de quelques barrages ce week-end. Mais globalement, les agriculteurs en attendent plus.
Ça a été un grand moment de discours syndical au début, où il a repris tout notre discours syndical, il nous a caressé dans le sens du poil. Et puis après, on a eu des annonces, alors certes, certaines qui font avancer nos problèmes, mais en tout cas, loin de ce qu'on attendait, et sur les problématiques principales, il ne nous a pas répondu.
L'exécutif assure entendre les préoccupations des agriculteurs. Les syndicats seront reçus ce soir à Matignon. En attendant, le Premier ministre ne lâche pas le terrain. Hier encore, Gabriel Attal était en Indre-et-Loire.
Il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin parce que une partie de mon équipe me disait « T'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler, etc. » Et moi, je leur ai dit « Non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même s'il me fait engueuler. » Là, moi, je veux qu'on me clarifie les choses et qu'on voit les mesures qu'on peut prendre supplémentaires sur ces histoires de concurrence déloyale. C'est pas normal que vous soyez empêcher d'utiliser certains produits.
Deux heures plus tard, c'est Marine Le Pen qui recueillait elle aussi les doléances des agriculteurs. L'occasion de cibler le gouvernement à quelques mois des élections européennes.
Ils ne remettront pas en cause le modèle. C'est le modèle qu'ils ont choisi, dont ils ont fait la promotion, qu'ils soutiennent au niveau de l'Union européenne, qui est un modèle qui tue notre agriculture. Il faut appliquer ce que le Rassemblement national édicte, demande depuis des années, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu qui soit correct et leur permettre de vivre. Ils ne demandent rien de plus.
La gauche aussi veut entrer dans la bataille. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon s'est posé en défenseur des agriculteurs.
Après avoir eu un certain nombre de bazars, comme d'habitude, on finisse par s'arranger avec un petit truc, on va baisser ici, on va verser un chèque là. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'une transformation profonde de l'agriculture. Donc, moi c'est clair, si mes amis gouvernaient ce pays, ou si moi-même j'y participais, nous sommes capables de régler le problème de l'agriculture en 5 ans.
Entre deux voyages à l'étranger, le président tente lui de garder un œil sur le dossier. Réunion de crise organisée à l'Élysée cet après-midi. De nouvelles mesures devraient être annoncées dès demain.
Alors, nous allons revenir sur les mesures qui pourraient être annoncées, mais quand même avec vous, Nathalie Sogone, sur ce déferlement d'amour envers les agriculteurs de la part de l'ensemble de la classe politique désormais.
Oui, alors, de la part du gouvernement, c'est quand même très logique.
Oui.
c'est le pouvoir de nuisance des agriculteurs. On est en train de le voir aujourd'hui, il est quand même assez énorme. Et c'est quand même une population qui a les faveurs de l'opinion comme rarement un secteur en a. Ça fait vibrer manifestement chez les Français quelque chose de très profond. 24% des Français vivent en milieu rural et les urbains, eux, ils ont tous plus ou moins des racines paysannes.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand on voit Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'il y avait un peu de malice dans ma question. Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, on sent qu'il y a une volonté d'être, un mouvement qui est très populaire, on va le voir dans un instant avec Jérôme Fourquet, une volonté de cette partie de la classe politique de dire ça se fait aussi avec nous.
Non, mais ce qui est assez hallucinant, c'est la partie d'hypocrisie générale. C'est-à-dire la droite dit c'est la faute des écolos, la gauche dit c'est la faute des libéraux, libre-échange, etc. Les écologistes disent ça n'est pas de notre faute, surtout pas. En fait, tout le monde se renvoie à la responsabilité parce que tout le monde s'intéresse au sujet une fois tous les X années. Oui. Ce que nous disent les agriculteurs, c'est, écoutez, on en a un peu assez que la terre entière nous explique comment faire notre métier. Laissez-nous, et c'est peut-être la formule de Gabriel Attal qui a finalement été, à mon avis, la pointe. Au lieu... Et il y a deux choses qui ont été entendues, c'est un, on va mettre l'agriculteur au-dessus de tout. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que tout est au-dessus de tout. La phrase qui m'a le plus frappé, c'est « on va vous laisser travailler ». Et ouais. Je ne sais pas s'il a été entendu sur ce point-là, mais les agriculteurs ont envie qu'on arrête de leur dire comment faire leur travail.
Jérôme Fourquet, juste quand même un mot sur cet amour. L'amour est dans le pré, hein, sans mauvais jugement, avec la venue de Karine Le Marchand sur ce point de blocage, comme on l'a vu tout à l'heure. 89% des Français sont derrière ce mouvement. Là, ça rigole pas. C'est-à-dire que c'est tout un pays, malgré les blocages, malgré les difficultés sans doute pour les gens qui essaient de circuler sur ces voies qui sont aujourd'hui bloquées. Ce soutien est massif. Pourquoi ? C'est quoi le lien entre ce pays et ses agriculteurs ?
Alors ce soutien, il est massif, c'était en fin de semaine dernière. C'est avant on verra dans quelques jours si le mouvement se durcit, si le soutien demeure. Mais les sondages qui ont été faits, hélas, lors de précédentes crises agricoles, parce qu'on est habitué en France à voir ce genre de mobilisation, montrent toutes ces enquêtes qu'il y avait un soutien qui était massif. Alors d'une part, en raison de ce que représente l'agriculteur dans l'imaginaire collectif, hein, pour toute une partie de la population, nos racines, c'est ceux qui nous nourrissent, c'est ceux qui entretiennent nos paysages. Leur rôle a été bien souligné au moment de la pandémie, quand on a craint qu'il y ait des pénuries alimentaires. Donc cette image-là a encore bénéficié. C'est aussi, comme l'aurait dit un ancien président de la République, la France qui se lève tôt. La France qui compte pas ses heures, une France qui bosse. Et donc c'est tout ça qui se condense dans ce soutien très fort aux agriculteurs. Sachant que de surcroît, même si on a eu quelques images spectaculaires d'une préfecture d'Agen recouverte, repeinte en couleur lisier, qui a un peu marqué les esprits, on est sur une profession qui, en général, ne va pas à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et on est dans la casse qui
on va en parler tout à l'heure.
Importante, mais qui reste symbolique. C'est d'ailleurs ce à quoi a appelé le leader de la FNSEA en disant surtout pas de violence pour qu'on garde ce sacro-saint soutien de l'opinion publique.
Cette question de Loïc, dans le Finistère, pourquoi des agriculteurs ont-ils cessé leurs actions alors que d'autres les durcissent ? J'ai du mal à comprendre. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a une disparité dans les revenus des agriculteurs, dans les préoccupations, la stratégie, ça on le comprend. Comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?
Il y a deux points en fait. Il y a la stratégie syndicale, on voit bien entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont plutôt sur une stratégie syndicale plus modérée. Donc le dialogue avec les institutions, le dialogue avec les préfets évidemment, et puis la coordination rurale qui elle est le deuxième syndicat du secteur qu'on voit agir assez fortement hein, justement dans Lot-et-Garonne là avec son leader. Et là c'est plutôt ils sont plus adeptes en fait de l'opération coup de poing. Donc voilà, il y a ces stratégies là qui se jouent. Et puis il y a une réalité du métier, c'est-à-dire que même la lutte elle est contrariante pour eux, elle est contrariée parce que faut nourrir les bêtes, hein, faut semer. Ils ont pris du retard hein, sur les semis d'ailleurs depuis plusieurs mois avec la météo. Donc il y a des espèces de roulements qui se font et quand ils quittent un barrage, par exemple sur Albi, il y a un barrage qui va être levé sur l'autoroute, mais c'est pour mieux occuper le lendemain Blagnac, donc la zone industrielle et aéroportuaire. Donc c'est avoir des opérations un peu glissantes et permettre en fait d'être à la fois au moulin de la lutte et ensuite sur les exploitations parce que vivre de leur travail, déjà ils n'en vivent pas, mais il y a du retard qui s'accumule ensuite. ensuite sur les cultures.
C'est ce que dit Arnaud Rousseau de la FNSEA. Il dit aucune région ne sera épargnée parce que nous allons faire des roulements. Donc ce mouvement peut durer. Je vous pose juste la question que nous posons ce soir en titre. Peuvent-ils assiéger Paris ? Ont-ils les moyens à un moment donné de bloquer les acheminements de nourriture et l'accès au travail, par exemple, des salariés parisiens ? Et dans d'autres villes, parce qu'on parle ce soir de Paris, mais il y a Lyon, voilà, il y a d'autres métropoles qui sont concernées. Hein.
Tout à fait, ouais, il y a Lyon, Toulouse. Je pense sincèrement qu'ils peuvent le faire, et ça explique sans doute un peu une espèce de fébrilité. Et comme disait tout à l'heure Nathalie, je pense que Gabriel Attal sur le fétu de paille, il devait imaginer que quand même ça allait passer un peu davantage, en tous les cas atténuer un peu les tensions. On voit que non, parce que le désarroi, il est profond, il remonte pas du tout à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 à l'Élysée, hein, mais il remonte à 10 ans, 15 ans de perdition. Et en fait, c'est une profession qui, sans les aides européennes, donc la politique agricole commune, aujourd'hui ne vit pas de son travail, ne décide pas de son prix d'achat, ne décide même pas de son mode d'exécution de ses tâches et de son travail.
Vous pouvez peut-être donner un exemple là-dessus, parce que c'est assez incroyable. En préparant l'interview, j'ai travaillé sur ce que vous avez produit en tant que journaliste, et c'est vrai que sur la PAC et les contraintes qui sont imposées sur les modes de semences, par exemple, c'est assez hallucinant.
Il y a des choses dont on n'a pas du tout connaissance, on n'imagine même pas l'existence. En fait, aujourd'hui, vous avez un système de géosurveillance satellitaire des parcelles, de toutes les parcelles d'Europe, hein, pas simplement en France. L'idée étant pour Bruxelles de surveiller les déclarations qui sont faites par les agriculteurs afin de toucher bien les aides au bon endroit. Donc, ils ont mis ce système en place l'année dernière. Donc chaque parcelle est surveillée par un satellite. Donc aujourd'hui, un agriculteur, il a plus son carnet, etc. Il est plutôt avec son téléphone. Oui. Il doit tout noter. Quand est-ce que vous avez un veau, une vache qui met bas, etc. Donc tout enregistré. Et derrière, si par exemple il n'a pas semé selon le calendrier européen, le téléphone il va biper, il va passer du vert au orange voire au rouge. Vous devez aller sur le.
Et même si le sol est gelé, hein.
Oui, voilà. En fait, il se réfère beaucoup au bon sens paysan, c'est-à-dire, moi, je peux pas semer parce que là, la terre, elle est trop sèche et ma graine, elle va pas monter. Mais ils le font quand même parce que sinon, l'aide européenne va être rabotée. Donc, on peut comprendre, le souci, parce que c'est quand même, la PAC, c'est 386 milliards d'euros sur 2021-2027. Ce sont des sommes énormes et la France est le premier pays qui bénéficie de ces aides. Donc, on peut comprendre le système de contrôle. Maintenant, pour un paysan, il fait plus ce qu'il veut, en fait.
C'était important que vous donniez cet exemple-là pour mettre ça en parallèle avec les annonces de Gabriel Attal qui ont été faites vendredi, et cette impression que ça n'a pas suffi, parce qu'il y a cette colère, y compris rentrée sur la manière dont qu'ils ont de faire leur métier. Nathalie Segone.
Oui, alors il y a une liste quand même, la FNSEA a dressé une liste de 122 revendications, il a annoncé une dizaine de mesures, donc évidemment, mais par ailleurs, les revendications, elles sont multiples, il y a autant de revendications différentes que de filières, c'est une profession qui est organisée en filière, donc qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Et ensuite, elles sont parfois hyper locales. Le loup dans les Alpes, il n'y a pas de réponse à la question du loup dans les Alpes qui se pose depuis une vingtaine d'années. Donc tant que le gouvernement, ils le tiendront d'une certaine façon, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas répondu sur les 122 points, ils peuvent dire on continue le mouvement. C'est pour ça aussi que ce mouvement est très compliqué à saisir pour le gouvernement, parce qu'il faut répondre à tout. Après, il y a quelques constantes, hein, les normes, ça traverse... La multiplication des normes, ça traverse toutes les filières, l'histoire des revenus, de la concurrence déloyale. Il y a des points communs entre les différentes professions.
Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus profond que ça, Jérôme Fourquet. C'est le sentiment qu'elles vont disparaître.
Mais en fait, vous savez, donc on les oppose souvent à certains écologistes. Il y avait un mouvement écologiste qui s'appelait Extinction Rebellion. Mm-hmm. Et donc là, c'est un peu Extinction Rebellion du côté des agriculteurs, en disant « on va disparaître ». Si on donne quelques chiffres, au moment de la réforme de la PAC en 1992, il y a encore 900 000 exploitations agricoles en France en 1992. On est à 380 000 aujourd'hui. Donc c'est le plus grand plan social silencieux de l'histoire de France contemporaine. Alors souvent, ça s'est fait au moment du départ à la retraite de l'exploitant. Mais les exploitants voient que déjà, ils sont minoritaires dans le pays, mais même dans leur commune rurale, ils sont aujourd'hui minoritaires. Et ils voient leurs collègues petit à petit disparaître. Un agriculteur sur deux va avoir cessé son activité dans 10 ans. Et donc, c'est le stade, on a dit tout à l'heure, ça fait longtemps déjà qu'il y a des crises agricoles et des mobilisations, mais là, c'est beaucoup plus existentiel. C'est leur survie en tant que groupe social qui se joue. On avait eu des mobilisations de marins-pêcheurs dans les années 90, avec la fameuse manifestation de Rennes. On avait eu les métallos en Lorraine. Et là, c'est une autre profession qui sent que c'est le dernier carré qui est en train de disparaître. Alors, ils s'étaient mobilisés contre le loup ou l'ours dans les montagnes, contre les jachères, contre les normes, contre l'interdiction du glyphosate. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond, contre l'agribashing. C'est-à-dire, en fait, on n'est plus compris.
Ça veut dire qu'elle est dure à apporter, la réponse, Jérôme Fourquet, de la part du Premier ministre.
Très, très dure. Donc, c'est pour ça qu'il a essayé de placer ça sur un niveau qui allait au-delà des simples réponses techniques, en disant l'agriculture sera au-dessus de tout, on vous aime, etc., etc. Parce qu'ils ont le sentiment que même si les Français les soutiennent, ils sont la variable d'ajustement. Et comme d'autres producteurs, comme les ouvriers dans les industries, ils ont été passés par perte et profit. En disant, ben voilà, aujourd'hui, on l'entend souvent, des agriculteurs qui vous disent sur les barrages, personne ne remet en cause le fait de payer un forfait de téléphone X euros. Et par contre, on va être au centime près sur la brique de lait. Et ça veut bien dire que ce qu'on produit...
C'est repris par le ministre de l'Agriculture, voilà, d'ailleurs, très régulièrement, cet argument.
Ce qu'on produit aujourd'hui n'a plus de valeur. C'est même pas nous qui sommes capables de fixer nos prix. Et on est en train de passer à la trappe. Et donc, c'est le dernier carré qui fait son baroud.
C'est pour ça qu'ils n'ont rien à perdre.
Ben, beaucoup. Ouais. Quand, on a un suicide tous les deux jours. Dans la profession agricole, des gens qui font 60 heures par semaine, 70 heures pour sortir moins d'un SMIC... Et donc là, ils se disent, perdu pour perdu, ce coup-ci, on y va.
D'ailleurs, c'était une des propositions d'Éric Ciotti, de garantir un salaire minimum à chaque agriculteur de 1 500 euros mensuels. Cette proposition a été retoquée par le gouvernement.
C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un glissement, en fait, dans les revendications. On a beaucoup parlé la semaine dernière des normes, oui, mais on sent bien que les normes, avec notamment l'exemple qui a été donné des 14 réglementations pour les haies, et le gouvernement a dit on va passer à une. Mais on voit bien que le débat est en train de partir dans pas mal de directions. Il y a notamment celle du libre-échange, les accords de libre-échange avec le Mercosur, oui, l'Amérique latine, avec la Nouvelle-Zélande. On voit bien que quand les producteurs de cerises disent ça ne concerne pas simplement les pays très lointains, mais ça concerne les cerises qui nous viennent d'Italie, qui nous viennent de Turquie, et qui nous viennent d'Espagne. Nous ne sommes plus capables de produire parce que nous avons des coûts trop élevés. Donc, effectivement, la réponse du gouvernement, elle est très compliquée à apporter. Il s'est rajouté quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, mais les donner à qui ? Voilà. Réorganiser la PAC, sans doute. Un exemple a été donné très concret, je vais en donner un autre. Dans une interview à l'Opinion, Pascal Canfin, qui est le président de la Commission Environnement du Parlement européen, a dit littéralement, remplir pour un agriculteur un dossier PAC, c'est l'enfer, c'est vrai. Quand vous avez un des plus hauts responsables de l'Europe qui vous dit c'est l'enfer, ben on est censé quand même le croire. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas.
En sachant que c'est un mouvement européen, on peut le rappeler, puisque à la frontière belge, des tracteurs sont en train de se joindre au mouvement des agriculteurs français. On sait que c'est un mouvement aujourd'hui qui est aussi suivi en Allemagne.
En Roumanie.
Est-ce qu'il peut y avoir jeudi, puisque jeudi il y a un Conseil européen, est-ce qu'il peut y avoir une réponse commune, ou est-ce que de toute façon c'est vers Gabriel Attal et le président de la République qui vont se
Alors, une réponse
français
qui est attendue, qui est très concrète, c'est est-ce que l'Europe va renoncer à demander cette année une baisse de 4%, de la mise en jachère, oui, de 4% de la surface des exploitations. Il y a eu une dérogation pendant plusieurs années, ça n'a pas été fait, ce moins 4%, et il y a 22 pays européens qui sont favorables, d'accord, à ce gel aujourd'hui, et il y a 4 pays donc qui ne sont pas favorables. Je crois qu'Emmanuel Macron a eu au téléphone Ursula von der Leyen vendredi. Il y a eu un accord oral, mais il me semble que le gouvernement attend un texte écrit qui n'arrive pas.
Cette question de Claude dans la Loire, les agriculteurs ne devraient-ils pas plutôt monter à Bruxelles ? Est-ce que c'est là que se joue leur avenir, ou est-ce que c'est encore entre les mains du Premier ministre et du Président de la République ?
Il y a des réponses qui peuvent être données directement par l'État français, par l'exécutif. On parlait de transmission des exploitations sur les points de bouclage, ils en parlent beaucoup. En Occitanie, par exemple, qui est la région agricole la plus importante en France, mais aussi la plus pauvre, vous avez 4 à 5 exploitations qui ferment tous les jours parce que faute de repreneurs. Et donc l'État peut tout à fait jouer sur les droits de succession. C'est d'ailleurs une une idée que Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, met en avant. Donc exonérer totalement de droit de succession à un exploitant qui souhaite céder son exploitation à son enfant, son fils, à un descendant, etc. Donc ça, c'est une réponse qui peut être donnée par l'État français. Maintenant, on peut tout à fait imaginer que s'ils veulent tenir dans la durée jusqu'au salon d'agriculture, et ça, c'est vraiment
c'est loin, hein.
leur ambition, ils peuvent tout dans à fait, dans un mois, mais en faisant des équipes, des roulements, ils peuvent tout à fait. Et donc, on peut tout à fait imaginer voilà, des marches européennes. C'est tout à fait
avec un paramètre politique que je ne maîtrise pas, les Gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron qui a finalement répondu. Est-ce que les agriculteurs ne souhaitent pas que ce soit Gabriel Attal qui apporte la dernière réponse, mais que ce soit cette fois-ci gilet vert comme gilet jaune, Emmanuel Macron?
D'ailleurs, il a organisé une réunion cet après-midi avec ses ministres à l'Élysée. Un mot quand même sur Gabriel Attal. Le responsable des Yvelines de la FNSEA s'exprimait sur une chaîne info cet après-midi et disait « Mais qu'est-ce qu'il y connaît à 34 ans, ce jeune Premier ministre du monde de l'agriculture, etc. » Il a mouillé le maillot, Gabriel Attal. Depuis ce week-end, il racontait dans le reportage qu'on a vu « Mes conseillers m'ont dit de rester préparer mon discours politique général à Paris. Je suis venu vous voir. » Il joue aussi, lui, sa capacité à entendre les colères et il doit démontrer quelque chose, à votre avis, sur cette crise-là?
Il doit démontrer. Il a démontré à l'éducation qu'il était très fort sur la communication, honnêtement. Il essaie de continuer sur cette voie en allant sur le terrain, en disant l'action, mais aussi les résultats. Mais c'est plus difficile, là, dans cette crise agricole, d'avoir des résultats que sur l'abaya. L'abaya, on dit « je vais supprimer l'abaya », on la supprime et c'est fait. Et c'est pour ça qu'il c'est pas avec ça qu'il s'est rendu populaire, Gabriel Attal. Là, c'est quand même extrêmement plus compliqué. Et il faut qu'il ait... En fait, je pense que demain, dans son discours de politique générale, ce qui est attendu, c'est qu'il expose une vision. Parce que ce que paient aujourd'hui largement les agriculteurs, ce qu'on leur demande, c'est de concilier la transition écologique avec la souveraineté alimentaire, qui sont deux objectifs français. Mais comment peuvent-ils, eux, de là où ils sont, faire cette conciliation? Et c'est ça que doit leur dire le pouvoir politique. Et c'est ça que le pouvoir politique doit leur permettre de réaliser. Et Gabriel Attal, il paraît effectivement un peu léger. Enfin, il n'a pas manifestement le background, la connaissance des sujets qui lui permettrait d'avoir tout de suite, d'emblée, en arrivant 20 jours après son arrivée, une vision, même pas 20 jours.
Tout le monde entend, là, quand vous parlez, la référence à Jacques Chirac. Bon, il y a d'autres présidents, en l'occurrence, ils étaient chefs d'État ou Premier ministre, qui n'avaient pas la connaissance de ce terrain agricole. Pourquoi je vous dis ça? Regardez ce que dit Michel. Paris ne connaît pas l'agriculture ni les problèmes des agriculteurs. Comment les politiques peuvent-ils prendre conscience de la réalité du terrain?
Le Temps, le journal suisse, rappelait qu'il a passé toute sa vie entre le 6e et le 7e arrondissement. C'est un peu méchant, mais c'est vrai. Et comment il peut incarner ça?
En tout cas, c'est son défi.
Je ne sais pas si Elisabeth Borne aurait fait mieux. Ouais. Vous voyez, si elle aurait été sur un barrage avec la botte de paille, etc.
Elle a été
préfète, effectivement.
Donc, Gabriel Attal.
Mais bon,
juste, pardonnez-moi, ce qu'il y a derrière cette question, au-delà de Gabriel Attal, c'est Paris ne connaît pas l'agriculture. On entend arrêter de nous envoyer des injonctions d'en haut. Jérôme Fourquet.
Oui, tout à fait. Et puis, si on ajoute un autre élément, c'est la question, quelle est la place aujourd'hui des producteurs dans une société qui est une société de consommation, où toute la philosophie européenne, c'est la directive sur le marché, c'est la libre concurrence libre et non faussée. Il y a une direction de la consommation. Ouais. Et on a dit, la production s'ajustera. Et donc, on a vu ce qui s'est passé en termes d'ajustement dans notre industrie. On a vu aujourd'hui dans l'agriculture. Et donc, il y a... pour parler comme les communicants, il y a tout un métadiscours, un gros discours sur quelle place on redonne à la production, à ceux qui font dans la société française contemporaine, parce que c'est sûr que ce n'est pas avec trois mesures, même si elles sont importantes, qu'on va remettre toutes ces professions au centre du jeu.
On va poursuivre cette discussion. Je voudrais qu'on aille sur le deuxième reportage, si vous le voulez bien. En tout cas, c'est parce que c'est une stratégie qui a fait un peu polémique, celle choisie par le ministre de l'Intérieur. Depuis le début du conflit, le mot d'ordre et ses consignes au préfet peut se résumer avec le mot qu'il utilise souvent, la modération. Même quand des bâtiments publics sont parfois pris pour cible. Alors forcément, les écologistes se braquent, dénoncent un deux poids, deux mesures, alors que le mouvement, on l'a compris aussi, s'installe dans la durée. Romain Besnénou et Théoman Bala.
Rungis, aux allures de forteresse. Depuis hier soir, Plusieurs blindés et de nombreux gendarmes protègent le marché international, nouvelle cible d'une partie des agriculteurs en colère. Une ligne rouge à ne pas franchir pour les autorités et peut-être un tournant. Car jusque-là, le ministre de l'Intérieur faisait preuve d'indulgence, voire de bienveillance à l'égard du mouvement. Hier soir encore, place Beauvau.
Les instructions, c'est évidemment une consigne de grande modération, comme je l'ai fait depuis le début de ce mouvement social, des forces de l'ordre vis-à-vis des protestataires, vis-à-vis des agriculteurs. Nous ne sommes pas là pour une épreuve de force. Les forces de l'ordre, les CRS et les gendarmes mobiles n'ont pas comme consigne d'intervenir sur les points de blocage, mais d'accompagner ces points de blocage pour les sécuriser.
Et depuis des jours, sur les routes de France, les forces de l'ordre escortent les tracteurs sur les points de blocage. La circulation est même interrompue sur leur passage. Des tas de fumier sont déversés sous leurs yeux, des axes bloqués, des biens dégradés. Mais pour l'heure, aucune intervention des policiers. Certaines actions sont pourtant beaucoup plus violentes. Ce parking de supermarché retourné à la pelleteuse, par exemple, ou ces deux bâtiments administratifs incendiés.
Les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui, ils seraient en prison et condamnés. C'est quand même étonnant de voir que dans notre pays, quand on défend l'intérêt général, on est immédiatement sanctionné. Quand on défend des intérêts corporatistes qui sont légitimes aujourd'hui, on n'a pas les mêmes réponses.
Les écologistes, qui font le parallèle avec les deux militantes qui ont aspergé la Joconde hier au Louvre et qui ont été interpellées.
Je note par contre qu'elles sont en garde à vue depuis, qu'elles y sont toujours à l'heure où je vous parle. Et donc on voit bien à un moment qu'aujourd'hui, si vous êtes agriculteur et en colère, vous avez raison de l'être et vous avez raison de lutter. Mais quand vous êtes jeune, inquiet pour l'avenir du climat, et en fait c'est logique. On est en 2024, les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Et cette colère-là, elle est aussi légitime.
Pour les écolos, les mauvais souvenirs sont nombreux. Il y a 8 mois seulement, des militants montaient un barrage sur l'autoroute A13, la même qui est aujourd'hui bloquée par les agriculteurs. Ils seront délogés par les CRS en 30 minutes. De même pour le blocage des rues à Paris. Ou le périphérique. À chaque fois, la préfecture condamne des actions illégales et les manifestants finissent au poste.
À ce stade, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai pas de futur de toute façon. J'en ai rien à faire. Mettez-moi en prison, je m'en fiche.
La doctrine du maintien de l'ordre à la sauce Darmanin en question. Et depuis longtemps. On se souvient des affrontements lors des manifestations contre la réforme des retraites. Ou à Sainte-Soline, contre des militants radicaux écologistes. Des événements plus violents pour un Darmanin intransigeant.
Je veux d'ailleurs dire aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'état de droit de s'en prendre à des bâtiments publics.
Non, au désordre, à la bordélisation.
Si la fin justifie les moyens, dans quelle démocratie allons-nous vivre demain?
Comment expliquer alors la tolérance pour les agriculteurs? La popularité du mouvement, sans doute, la puissante structure syndicale aussi. Les tracteurs d'Agen sont partis ce matin direction Rungis. 2 jours de route pour des agriculteurs déterminés, mais conscients que la donne peut changer.
Il nous met 15 000 CRS à Paris. Bon, on n'est pas des délinquants, hein. On n'est pas des voyous, on ne va pas brûler Rungis. On monte à Rungis, il faut marquer un signal fort, il faut bloquer les camions.
On n'est pas là pour casser du flic, on n'est pas là pour... on n'est pas des bandits. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir simplement des réponses.
3 limites ont été fixées par le gouvernement, 3 lignes rouges. Rungis, mais aussi les aéroports franciliens et les grandes villes.
Alors j'ai hâte d'avoir votre réaction à ce reportage. Cette question de Claire, pourquoi comparer la colère légitime des agriculteurs au geste de 2 activistes ayant jeté de la soupe sur la vitre blindée protégeant la Joconde?
Non mais c'est une très bonne question, on a tous été frappés sur ce plateau par la réaction de Yannick Jadot qui dit d'un côté les activistes, c'est l'intérêt général, sous-entendu les agriculteurs c'est pas l'intérêt général, c'est un petit peu curieux comme défend. Sur ce 2 poids 2 mesures, il y a quand même un contre-exemple évident, c'est Notre-Dame-des-Landes. Et ça a duré 1 an et demi ou 2 ans sans que la police intervienne le matin, midi et soir. Elle est intervenue au bout de 2 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures.
Mmh. Sur la stratégie, elle est assumée par le gouvernement de dire ils expriment une colère, on doit l'entendre, ils doivent pouvoir manifester comme ils le font. C'est une forme de manifestation. et de blocage des agriculteurs.
Le problème, c'est que c'est totalement contradictoire avec le discours depuis les émeutes de juillet sur l'ordre, l'ordre, l'ordre. Je vous rappelle les mots d'Emmanuel Macron sur l'autorité. Ils ont fait la rentrée là-dessus, sur le régalien, sur le retour de l'autorité. Sur... Et là, on justifie quasiment de ne pas intervenir et de laisser faire. Évidemment, il essaie de se rattraper ensuite, Gérald Darmanin, mais
ça suscite quoi? De la confusion, de l'incompréhension, à votre avis, cette stratégie de la part de Gérald Darmanin, ou une forme de colère? On a entendu Jean-Luc Mélenchon hier, chez nos confrères de BFM,
qui disait pari raté.
L'autorité de l'État sort diminuée quand elle ne s'exerce que contre les uns et qu'elle ne dit rien contre les autres.
Mais c'est toujours la même peur qui étreint ce gouvernement, c'est le retour des Gilets jaunes, c'est le retour du mouvement social qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est aux portes de l'Élysée. C'est, depuis 2018, ils vivent là-dessus, ils vivent avec cette peur au ventre. Donc à chaque fois en plus, alors là pour le coup, ils n'ont même pas vu venir le mouvement, mais ils sont tout le temps à l'affût des signaux qui pourraient dire que tel secteur va s'enflammer, tel autre, etc., pourrait le rejoindre. C'est tout le temps ça, le discours sous-jacent. Donc,
mais c'est leur job, non ? De surveiller la température sociale du
bien
pays.
Bien sûr, c'est leur job. Mais du coup, quand il y a un mouvement social qui se réveille, on a peur que ça s'amplifie, donc on recule. Donc l'ordre, c'est plus... Voilà. Et en plus, quand c'est un secteur, une population qui a des faveurs de l'opinion, encore plus.
En tout cas, ça a suscité de l'incompréhension, je le disais, y compris... Alors ça, c'était assez inattendu de la part de l'acteur Pierre Ninet, qui a pris position sur le réseau social X en disant, en gros, au-delà des revendications justifiées de nos agriculteurs, bon là, il est comme 89% des Français, il est du côté des agriculteurs, ce discours, après qu'une bombe a explosé devant un bâtiment public à Carcassonne, inquiète. La répression policière dépendrait donc des opinions du gouvernement et non plus du droit.
Il y a aussi une réalité, enfin pour il y a la peur de la gilet jaunisation et tout à fait, mais il y a aussi le fait que les agriculteurs, les paysans comme ils aiment s'appeler, représentent un corps électoral, donc ce sont des gens qui votent plutôt à droite, et puis vous avez quand même l'échéance des élections européennes du mois de juin, donc il y a ce poids là en fait qui est en jeu. Les gilets jaunes, c'était très hétéroclite, et c'était surtout des gens qui ne votaient pas, donc leur taper dessus, etc. Bon, c'est pas grave, quoi. Mais je trouve que cette tolérance, elle est aussi à appréhender, en fait, par rapport au poids électoral de l'agriculteur aujourd'hui.
Bon, et puis il y a aussi une mémoire des luttes sociales en France, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une mansuétude, gauche ou droite confondue, pour les mouvements agricoles. Même si il y a une espèce de chorégraphie en disant jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que vous refaites la façade de la préfecture d'Agen au Lisier, donc c'est pas très
agréable,
recommandé. C'est pas très recommandé, mais ça va pas plus loin. On a des spécificités en Languedoc avec le mouvement des viticulteurs. C'est eux qui ont mis le feu et qui ont fait exploser des bâtiments publics. Mais ça fait longtemps déjà que tout ça dure. Et donc le maintien de l'ordre, comme l'expliquait Alain Bauer, c'est aussi la capacité à le maintien de l'ordre à la française, de gérer un certain degré de violence acceptable. En disant, tant qu'on est sur ce niveau de casse, on peut accepter, vu que ça n'aille pas plus loin. Et donc vous laissez, si vous voulez, comme le sifflet de la cocotte minute, une partie de la pression s'échapper de la sorte. Rappelons aussi que les forces de l'ordre ne sont absolument pas en cause, mais il y a eu deux morts déjà. Deux femmes qui ont été renversées. Et donc là, ce que les policiers et les gendarmes essayent de faire, c'est d'encadrer le mouvement pour que... Parce que vous ne bloquez pas une autoroute comme ça, c'est compliqué. Pour que ça ne crée pas de drame supplémentaire. Ouais. Et au moment du déclenchement de la crise des Gilets jaunes, au début, les forces de l'ordre ont laissé les Gilets jaunes occuper les ronds-points, occuper les péages. Ils étaient par centaines sur les autoroutes et on a laissé faire. Alors il y avait un effet de sidération, de surprise. Et puis ensuite... Il y a eu la reprise en main. Là, les agriculteurs, il y a une chorégraphie et un bras de fer avec le gouvernement. Ils ont du matériel lourd en plus, ils ont des tracteurs, donc vous ne les déplacez pas comme ça. Les gilets jaunes, ils étaient uniquement avec leur corps. Mais si les axes vitaux sont bloqués trop longtemps...
On changera de musique.
On va changer de musique. Ouais. Les blindés de la gendarmerie sont à Rungis. Vous vous promenez dans Paris, on voit les grosses dépanneuses de la gendarmerie qui sont prépositionnées. Et donc, pour l'instant, on laisse faire tant que le niveau... casse, entre guillemets, est relativement acceptable.
Sur la séquence, c'est aussi un pari raté du gouvernement. Le gouvernement, vendredi, a cru que les choses allaient peut-être, par miracle, s'arrêter. On se souvient de cette séquence assez stupéfiante dans l'histoire sociale, d'un Premier ministre qui va sur le terrain, qui quasiment embrasse le leader syndical Jérôme Bayle, qui, le Premier ministre est applaudi et tout le monde remballe. Et c'est vrai que l'information, les télévisions en continu étaient sur cette séquence. Et ça a
créé, le sentiment que c'était fini.
Ça a créé un effet de loupe, mais qui était faux. Et il est très probable d'ailleurs qu'à Paris, les leaders syndicaux se sont dit « Attendez, on va montrer au terrain que les patrons, c'est nous à Paris. »
Dominique Seux, est-ce qu'il y a une inquiétude des milieux économiques? On parle quand même de, on l'a vu tout à l'heure passer rapidement, la carte, c'est l'ensemble du territoire qui peut être impacté par ces blocages. Est-ce qu'il y a une inquiétude des entreprises?
Alors, à ma connaissance, pour l'instant, non, parce que ça fait une semaine. On note dans les milieux que certains milieux économiques sont beaucoup plus discrets qu'ils ne l'étaient ces dernières semaines. Je pense évidemment aux responsables de la grande distribution.
On les entend plus.
On a énormément entendu pendant des mois et des mois et qui là, soudain, sont extrêmement silencieux. Ce qui est clair pour les milieux économiques, c'est que on dit beaucoup en ce moment que l'économie n'est plus déterminée par l'économie, mais par la géopolitique, par des mouvements sociaux, et qu'il y a une incertitude quasiment permanente, ce qu'on appelle la permacrise. C'est un nouvel élément à charge dans ce dossier.
Et tout à l'heure, vous faisiez, pendant qu'on regardait un reportage, un parallèle intéressant entre ce ressenti des agriculteurs et ce qu'a vécu à un moment donné l'industrie.
Le parallèle me semble assez frappant. Il y a une vingtaine d'années, on a entendu en France, au fond, peu importe que les usines partent, nous allons garder la haute technologie, les grandes compétences. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les agriculteurs se disent « mais au fond, on nous a sacrifiés de la même manière ». On a dit « au fond, la production agricole, ce sont ce qu'on appelle les commodités, c'est des choses faciles à produire et nous allons exporter des Airbus, des produits de haute technologie ». Et il y a dans les deux cas un retour de bâton parce que l'ensemble des métiers sont utiles et participent à… Je reprends le terme de Yannick Jadot, l'intérêt général.
Elle s'appelle Poupette, une petite entreprise des Côtes d'Armor. C'est une épicerie itinérante qui se rend là où le dernier commerce a fermé, là où la solitude est si lourde parfois, en particulier chez les femmes d'agriculteurs. Reportage Magali Lacrosse et Arnaud Fora.
Au cœur de la Bretagne, la campagne à perte de vue. Comme tous les jours de la semaine, le camion jaune de Marc sillonne les routes. Ça fait de longues journées pour Marc, seul à bord de son épicerie itinérante Poupette. Avant, il était garagiste, mais c'était dans une autre vie.
Bonjour Jacqueline. Oui. Je suis venu avec la pluie.
J'ai fait 88 ans maintenant. Je tiens à peine debout, voilà. Mon mari, ça fait 46 ans qu'il est décédé. On avait plus 41 ans. J'avais trois enfants. Alors j'aime autant vous dire que j'ai galéré. J'achetais du yaourt, mais moi j'en mangeais pas parce que j'avais pas les moyens.
Alors dis-moi ce qu'il te faut.
Et avec l'inflation, la galère continue. Les clients de Marc sont essentiellement des clientes, d'anciennes agricultrices qui vivent seules, loin des villes.
C'est bien quand on est livré à domicile.
On les écoute pas forcément, les anciens. Ou on n'a pas forcément envie de les écouter. Et en fait, c'est intéressant, ça nous apprend pas mal de choses, quand on veut les écouter.
Vous avez le courage de sortir avec Stan, là ? Et vous ? Oh, ben moi. Moi, j'ai eu tellement l'habitude. Hein. Tous les matins, il fallait aller prendre les vaches au champ. Et ensuite, il fallait les ressortir une fois qu'on avait fait la traite. On avait une trentaine. On n'a pas pu avoir plus. C'est un peu l'histoire des quotas. Il y a eu que ça toute notre vie, des histoires comme ça.
Déjà des histoires de normes.
Clémentine ?
Oui.
Merci.
À la semaine prochaine, Jeanne.
À la semaine prochaine.
Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Il y en a certainement, oui, mais les trois quarts, voire plus, vivent avec pas grand-chose. Ça, c'est quand même, je trouve, assez dramatique de travailler toute sa vie et d'avoir à peine de quoi se nourrir.
Bonjour, bonjour, Janine.
Les clientes de Marc ne se connaissent pas vraiment, mais elles se ressemblent beaucoup. Elles n'attendent pas grand-chose de la politique. Janine revient sur la conférence de presse du président mi-janvier.
Mais il n'a pas parlé de la baisse.
Il n'a pas parlé de quoi ?
De baisse.
De baisse des impôts ?
Non, de prix.
Oui, de baisse des prix.
Des prix, il n'a pas parlé. C'est beaucoup trop cher quand même. Hein. Quand on voit un pain d'œuf quand même à 1,50€.
C'est sûr.
Je dis le pain, il n'y a que l'eau et la farine. Hein.
L'autre sujet sensible, une hausse de la retraite très attendue.
Mais il avait dit qu'il aurait fait en janvier, mais est-ce que c'est vrai?
Merci, madame.
Vous payez toujours par chèque?
Toujours.
Là, vous êtes là, donc sinon, c'est des lingots. un morceau de lingot.
Il les fait rire, ses clientes.
Ah ben, ça, c'est sûr. Tous les mercredis, on l'attend.
La tournée a pris du retard. Chez Lucienne, Marc a ses habitudes.
Et je mets ce qui doit aller à la poubelle. Je m'occupe du ravitaillement de Lucienne. Je fais comme chez ma mère.
Ben, on voit personne. Je bouge plus d'ici. J'ai jamais eu mon permis. J'ai pas été le chercher non plus. Alors, quand mon mari était là, il n'avait pas besoin d'eux pour les prendre du pain.
Plus que jamais, l'impression d'être abandonné. Une présence et une promesse. Celle du retour de Marc dans une semaine.
Jérôme Fourquet, il est utile, hein, avec son épicerie poupette.
Bah, oui,
c'est dingue,
oui,
ce reportage. Ouais.
Notamment là, dans ces régions.
Vous avez le Rému, on les touche.
Oui, oui, bah, c'est la région de Carhaix, c'est le centre-Bretagne, donc c'est une des régions les plus pauvres de France. Mm-hmm. Beaucoup de ces femmes ont toujours vécu là. Elles sont souvent femmes, filles d'agriculteurs. Mm-hmm. Elles ont souvent travaillé sur les exploitations ou dans l'industrie agroalimentaire. Alors, celles qui travaillaient dans les exploitations, elles n'étaient pas déclarées à l'époque. Et donc aujourd'hui, rappelez-vous, au moment de la réforme des retraites, il y avait la question des retraites des femmes d'agriculteurs, les pensions de reversion. Donc là, c'est à quelques centaines d'euros. Et puis elles voient souvent leurs enfants, ceux qui ont repris les exploitations, qui font 60 à 70 heures par semaine, quand l'ensemble de la France est à 35 heures, pour sortir un SMIC. Et donc oui, il y a beaucoup de détresse et de colère. Et donc on voit bien que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très profond comme mouvement, et ça va pas se dissiper comme ça. Donc on peut essayer de panser les plaies, et on voit quand même le fossé béant entre toute une.
C'est France ça qui vous émeut, c'est la différence entre cette France-là et.
Alors c'est et ça, et puis
ce qu'on se raconte parfois ici sur ce plateau.
Alors et voyons aussi quand même, parce que c'est ce centre Bretagne. Toute cette Bretagne qui, quand même, a connu d'énormes transformations. C'est-à-dire que, moi, j'y étais la semaine dernière, j'ai rencontré des agriculteurs, ils me disaient, l'électricité arrivait en 1962 dans la ferme de mes parents. 1962. Et donc, ces gens-là, ils ont vécu tout ça. Et ils ont l'impression d'être restés un peu à l'écart du reste, même si des transformations ont eu lieu.
Dominique Seux.
Oui, non, on a tous été frappés.
On ne découvre pas cette réalité-là.
On ne découvre pas cette réalité. Est... Et j'ai marqué un instant de silence parce que je me souviens, moi, dans le Morbihan, dans les années 60, effectivement, l'électricité n'était pas toujours là. Et on était très frappés quand on venait, évidemment, de Paris, de voir qu'au fin fond du Morbihan, vous n'aviez pas encore l'électricité et des conditions de vie qui étaient quand même assez difficiles et qui le restent parfois.
Et donc, vous voyez, là, quand on... on regarde ce qui s'est passé récemment, donc cette petite grand-mère qui dit il n'a pas parlé de baisse. On en a déjà parlé sur C'est dans l'air en disant on a jugulé l'inflation. Mais pour tous ces gens-là, l'inflation, c'est plus 21%.
Et pas de baisse.
Alimentaire. Il n'y aura pas de baisse. Ouais. Regardez le prix du pain, etc. Donc le litre de gasoil, donc vous voyez, tous ces gens, ils roulent. Ceux qui n'ont pas le permis, ils sont condamnés. Le litre de gasoil était à 1,40€ au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est 1,90€ aujourd'hui. Dominique Seux nous a rappelé que le prix de l'électricité avait pris 70% en 5 ans. Vous voyez que cette dame se chauffe au bois. Et donc on a remis au goût du jour, dans certaines campagnes françaises, un vieux droit qui s'appelle le droit d'affouage. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller couper dans les forêts communales du bois pour vous chauffer. Et donc, on a toute cette réalité-là qui existe. Alors, c'est pas
et c'est aussi ce qu'il y a dans ce mouvement.
Mais on peut saluer
aussi. Mais oui.
Partie.
Et...
On peut saluer ces communes et ces mairies qui mettent en place des systèmes de distribution comme ça. J'en vois dans la Sarthe aussi. Ouais. Ce sont des élus locaux qui, avec des moyens quand même assez limités, font en sorte que le pain soit distribué aux personnes les plus âgées.
Mais c'est cosmétique, en fait, vous voyez, quelque part. Et c'est regrettable, c'est-à-dire que ça devrait être aussi l'État. Il y a l'isolement, enfin, on ne se chauffe pas et on ne mange pas correctement. Mais il y a aussi un profond isolement social. Et ça, on sait très bien que c'est quelque chose qui joue sur la santé, sur le moral, etc. Donc voilà, c'est aussi le mouvement qui dit ça aussi, c'est-à-dire l'abandon, le sentiment d'abandon dans la ruralité par rapport à la métropole ou aux grandes villes. Et de ces femmes-là, femmes d'agriculteurs, c'est pas femmes de footballeurs, hein, si pour la rime, hein, ce sont quand même des femmes qui ont travaillé pendant des années à l'exploitation sans être déclarées et qui aujourd'hui sombrent dans une grande invisibilité.
Et ces personnes préfèrent être chez elles, même seules, à aller dans une maison de retraite.
Mais elles n'ont pas les moyens d'aller dans la maison de retraite.
J'ai une question à vous poser. Regardez, Arnaud Rousseau est-il un agriculteur ou un agri-industriel ? Peut-il défendre véritablement les petits paysans ?
Alors, on change évidemment de
Oui, alors, en fait, non, on n'est pas si loin. C'est-à-dire, est-il un quelqu'un qui comprend cette réalité qu'on vient de voir, qui est aussi une réalité sociale des femmes d'agriculteurs et la difficulté de certains petits exploitants, alors qu'il est membre de la
Groupe ? Alors, c'était le cas du prédécesseur de celle de Christiane Lambert, qui est déjà dans une exploitation plus grande. Il préside donc, Arnaud Rousseau, le groupe Avril, qui est un groupe industriel, oléagineux, important sur le plan mondial, mais attention, qui est géré par la profession. Donc ça n'est pas des actionnaires de je ne sais où. Donc c'est pas une ligne de défense d'ailleurs, mais c'est vrai que dans ce conflit-là, il a à faire ses preuves, je le disais au début de l'émission, et donc il doit mettre sans doute un peu la barre un peu plus haut pour prouver à ses troupes à la fois qu'il les conduit et qu'il porte les revendications de l'ensemble des professions agricoles.
Il est chahuté sur les blocages ?
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est lui et son syndicat aussi. Hein. Pour beaucoup, la FNSEA est un peu complice de cette agriculture complètement dépendante des aides européennes et donc de cette PAC qui date des années 90. Donc, il y a aussi ça qui revient beaucoup sur les barrages. Après, la figure de Jérôme Bayle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de paysans qui se reconnaissaient, en fait, dans son parler vrai, dans son discours, dans son... Voilà, un peu moins après la séquence Attal où on lui a reproché une trop grande collusion ou promiscuité. Mais c'est vrai que l'agro-industrie, enfin voilà, les agriculteurs font une grande différence entre l'agro-industrie et leurs parcelles qui sont parfois nettement...
Alors je ne sais pas si on a le temps de passer, mais on a vu les différences de revenus moyens annuels entre les éleveurs porcins, les viticulteurs, les éleveurs bovins. Ça passe de 124 409 pour un éleveur porcin à 26 601 pour un éleveur bovin. On parle de revenus annuels. Il y a de grandes disparités. Hein. Ce n'est pas un tout quand on dit les agriculteurs ou les paysans. La moyenne ne veut rien dire.
Vous avez 20% des agriculteurs en dessous qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Et nous revenons à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.